Salut Raphaël.
Salut Patrick.
Donc, les négociations sur l'énorme plan d'infrastructure du président Biden, ben ça vient d'avorter.
Ça vient littéralement d'avorter officiellement. La Maison-Blanche, puis ça impliquait là, le président personnellement, depuis des semaines, négocier avec un petit groupe de sénateurs républicains plus modérés. Écoute, de tout ce qu'on en voyait, de ce qu'on en entendait, ça semblait vraiment être un effort de bonne foi de part et d'autre. Mais en même temps, ça illustre le gouffre qui est tellement gros. Quand on se parle de polarisation aux États-Unis, tu peux avoir des politiciens de bonne volonté de part et d'autre qui veulent négocier, mais leurs partis respectifs sont tellement loin qu'il n'y a juste pas moyen d'accoucher d'une entente. Puis ça, c'est pas n'importe quelle entente qu'on visait, c'était pour la priorité numéro un du président présentement. On rappelle que ce qu'il visait, c'était un plan de l'ordre d'à peu près 2 000 milliards de dollars. Ce que les républicains ce que les républicains avaient lancé comme plan originalement, c'était de l'ordre d'à peu près 500 milliards de dollars. Donc, on était très, très loin. On n'a jamais pu s'entendre. Puis aujourd'hui, officiellement, on a tiré la plug.
Mais c'est intéressant parce que ça illustre bien la différence entre le système américain et canadien. Si Justin Trudeau avait décidé d'un plan d'infrastructure avec la facture X, ben ça se serait produit. Aux États-Unis, le président était obligé de négocier avec le Congrès. Explique pourquoi c'est un peu plus compliqué pour lui.
Écoute, je vais même aller plus loin que ce que tu viens de faire avec ton exemple. Même pour Justin Trudeau, dans un parlement minoritaire, c'est plus facile de négocier parce que au Canada, ben premièrement, c'est un gouvernement majoritaire, disons-le franchement, t'as pas besoin de négocier. Le projet de loi que tu proposes, ben normalement, c'est le projet de loi que tu implantes parce que tu as les votes automatiquement pour le faire adopter. Aux États-Unis, le président peut proposer, mais au final, ce sont les deux chambres du Congrès qui sont indépendantes l'une de l'autre qui passent ou non un projet de loi. Puis, la différence aussi, c'est comme j'allais dire, c'est que même quand tu es dans un parlement minoritaire, que le premier ministre peut pas tout faire tout seul, s'il s'entend, disons, avec le chef de file d'un autre parti, ben cet autre parti-là va devoir voter en bloc parce qu'il y a une ligne de parti au Parlement canadien. Il n'y en a pas au Congrès américain. Autrement dit, Joe Biden peut s'asseoir avec le leader républicain et dire « Hey, on s'entend sur telle ou telle chose ». Le leader républicain, après ça, va voir son caucus, puis il y en a 10, 15, 20, 40 qui disent « Ah, nous autres, ça ne tente pas », ben ça meurt. Fait que c'est excessivement difficile de négocier et ça l'est encore plus dans le climat actuel.
OK, parle-nous des plans de réouverture de la frontière canado-américaine. Là, ça commence à se préciser.
Ça commence à exister parce que pour toutes les fois, on s'en est parlé en ondes ensemble, il n'y avait jamais vraiment de plan. Là, il commence à y avoir peut-être une ébauche de plan. C'est-à-dire que on ouvrirait peut-être d'ici la fin de l'été les valves pour les voyageurs qui sont pleinement vaccinés. Ça, il faut le dire, pleinement vaccinés. Deux doses. Ce que ça voudrait dire, puis là, je le mets encore au conditionnel, potentiellement, c'est qu'on viendrait sabrer là, dans, disons, les obligations là, pour les gens qui reviennent, par exemple, 14 jours, évidemment, et le petit séjour de 3 jours à l'hôtel. Mais il y a deux précisions qui sont hyper importantes. En fait, trois. La première, c'est qu'il n'y a rien qui est annoncé et qu'il n'y a rien qui va être annoncé normalement dans le très, très court terme. Et l'autre chose qu'on doit dire, c'est que la pression politique, elle est énorme venant des Américains. Là. C'est pas juste des Républicains qui sont souvent plus opposés aux mesures sanitaires. T'as beaucoup de démocrates, t'as des membres du Congrès, t'as la Maison-Blanche. Bon. Et plus le temps avance, plus la pression est forte. En même temps, ce qui ne change pas, ou très peu, c'est l'opinion publique. Puis il y a un nouveau sondage de Léger qui est sorti encore cette semaine qui montre que alors qu'aux États-Unis, c'est plus de 70% des gens qui veulent une réouverture de la frontière à court terme, c'est moins de 40% au Canada. Autrement dit, le gouvernement canadien opère pas avec les mêmes incitatifs, là, parce que la population est juste pas au même endroit présentement. Bref, attends-toi pas à pouvoir aller à Plattsburgh à très court terme.
OK, finalement, tu veux revenir sur une page d'histoire du Ku Klux Klan, le groupe raciste américain, là, qui est rapporté dans Le Devoir et ça touche les Canadiens français du Maine.
Oui, écoute, c'est très rare que je cite des médias québécois pour parler des États-Unis, mais aujourd'hui, je vais faire une exception parce que je vais même citer le journaliste Jean-François Nadeau du Devoir qui a écrit ce matin un texte hyper intéressant. Puis, il nous ramène à peu près 100 ans en arrière. En 1918, la majorité de la population du Maine, je pense que les gens l'ignorent, là, mais ils étaient francophones parce qu'évidemment, il y avait eu énormément d'immigration pour aller travailler dans les usines là-bas. Mais dans les années qui ont suivi, il y a eu des règlements très, très stricts qui sont entrés en vigueur pour interdire l'usage du français. Puis le groupe en bonne partie qui était derrière ça, derrière la lutte contre le français, c'était le Ku Klux Klan. Puis Ce qui est fascinant, c'est qu'évidemment, quand on pense au Ku Klux Klan, je pense que la plupart des gens, automatiquement, vont penser aux Afro-Américains. C'est un groupe anti-noir, évidemment, mais c'était aussi, fondamentalement, un groupe raciste. Et il y en avait, oui, contre les Noirs, mais aussi contre les Juifs, puis aussi contre les catholiques. Puis qui était catholique dans le Maine? Ben, les Canadiens français. Et le punch de l'histoire, pour moi, c'est ceci, c'est que, tu sais, on pense au Ku Klux Klan dans le sud des États-Unis, c'est vrai qu'il était là, mais en même temps que le Ku Klux Klan du Maine s'en prenait aux catholiques francophones, ben en Louisiane, donc dans le sud, il y avait des catholiques francophones qui étaient des Acadiens, qui, eux, se joignaient au Ku Klux Klan pour s'en prendre aux Noirs. Bref, quand t'es bigoté, il y a toujours une façon de voir l'autre comme une menace. Et cet article-là en est une illustration absolument extraordinaire.
Merci, Raphaël. On se retrouve demain.
À demain.